Radio Okapi.
Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Début aujourd'hui 25 mars de la session spéciale de l'examen d'État dans les provinces éducationnelles de Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3. Elle concerne plus de 300 candidats autodidactes. Prévue initialement le 7 mars à l'échelle nationale, cette session a été reportée dans ces trois provinces éducationnelles à cause de la crise sécuritaire persistante. Des consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont commencé hier à l'initiative du président Félix Tshisekedi. Désiré Cachemire Eberhan de Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui mène ces échanges, a rencontré hier même les membres de la primature de l'Assemblée nationale, le présidium de l'Union sacrée pour la nation ainsi que d'autres forces politiques. D'autres détails dans ce journal. Mukenge Totoro, porte-parole de la composante jeunesse et l'invité de ce journal, y plaide pour l'implication de la vraie majorité nationale dans les grandes décisions de la République et se plaint de l'exclusion de la jeunesse aux consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Notez d'abord qu'un sommet conjoint virtuel des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est tenu hier lundi sous la coprésidence du président kenyan William Ruto, président en exercice de l'EAC, et de son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, président de la SADC. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était à l'ordre du jour. Le président kenyan annonce que le sommet a décidé d'accélérer le processus de paix en nommant un groupe de 5 facilitateurs, les anciens présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Kgalema Motlanthe d'Afrique du Sud, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine. Le sommet a également adopté le rapport de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l'EAC et de la SADC, détaillant les étapes vers un cessez-le-feu, la cessation des hostilités et la mise en place d'un secrétariat chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions prises, précise William Ruto. Au Nord Kivu, plus de 300 candidats autodidactes sont attendus ce mardi 25 mars pour la session spéciale de l'examen d'État de cette année dans cette province. Initialement prévue le 7 mars à l'échelle nationale, cette session a été reportée dans trois provinces éducationnelles de l'Est en raison de la crise sécuritaire persistante. Il s'agit des provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, du Sud Kivu 1, du Sud Kivu 3. Les questionnaires de cet examen sont arrivés à Goma jeudi dernier en provenance de Kinshasa. Et ce n'est pas le premier convoi de matériel acheminé de Kinshasa vers Goma depuis l'occupation de la ville par le M23 et leurs alliés. Mais par quelle voie le matériel en provenance de Kinshasa parvient-il à Goma? Explication dans ce reportage de Rosalie Zawadi, rendu par Elise Kavira.
Des sources au niveau du secteur de l'éducation nationale révèlent que l'acheminement des questionnaires pour la session spéciale de l'examen d'État de Kinshasa à Goma a nécessité environ 18 heures. Le convoi parti de Kinshasa jeudi 20 mars à 0h55 à bord d'un avion Ethiopian Airlines a atterri à Kigali via Addis Abeba avant d'être transporté par voie terrestre de Kigali à Goma où il est arrivé vers 16 heures. Cet itinéraire complexe n'est pas un cas isolé. Récemment, des poches de sang collectées à Kinshasa pour soutenir la population de l'Est du pays ont également mis une semaine à parvenir à Goma. Elles ont été acheminées par avion de Kinshasa à Nairobi, puis de Nairobi à Bruxelles, avant d'être redirigées vers Kigali. Le trajet final de Kigali à Goma s'est effectué par voie terrestre dans le respect des conditions médicales requises. Un observateur souligne que, dans le passé, le trajet aérien direct entre Kinshasa et Goma ne prenait que 2 heures et s'avérait moins coûteux. Les longs détours actuels entraînent des dépenses supplémentaires considérables.
Pour ce qui est du Nord Kivu seulement, la province éducationnelle du Nord Kivu 1, au total, 305 candidats autodidactes sont attendus à cette session spéciale de l'examen d'État. Selon des sources au niveau du secteur de l'éducation de cette province qui donne ces chiffres, ces candidats seront répartis dans 3 centres. Le premier à Goma, le deuxième à Rutshuru et le troisième à Kigali au Rwanda. Toutefois, ces mêmes sources expriment leurs inquiétudes quant à la participation effective de tous les candidats inscrits en raison de la crise actuelle dans la région. Toujours au Nord Kivu, la prestation des services de santé est de plus en plus touchée par les effets de la crise économique que traverse la ville de Goma actuellement. Dans cette entité occupée par le 1-23 depuis environ 3 mois, certaines structures privées suspendent sans salaire ni indemnité plusieurs membres de leurs équipes. Une situation qui serait consécutive à la non-circulation de la monnaie dans la ville, estiment certaines sources. Bernard Nyangi.
Les structures publiques fonctionnent normalement malgré de nombreux défis économiques, affirme le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord Kivu. Pour le docteur Hans Batéi, le secteur de soins de santé primaire est social, mais il n'empêche, certaines structures à but lucratif font actuellement face à de nombreuses difficultés dans la ville de Goma, où les banques et les institutions de microfinance ne fonctionnent pas. Depuis quelques jours, certaines sources citent une clinique privée qui, depuis le 15 mars dernier, suspend sans indemnité certains membres de son personnel, ce qui affecte le service de cet hôpital en faveur de la population. Nous n'avons pu obtenir aucune réaction de la part de la structure en question malgré nos efforts. Face à cette situation, le docteur Hans Batéi plaide auprès du gouvernement congolais en faveur de la promotion de l'assurance maladie en RDC. Pour lui, la couverture santé universelle, lancée il y a quelques mois en RDC, devrait finalement être opérationnelle pour pallier les situations comme celles vécues dans la ville de Goma présentement.
Notez que les besoins médico-humanitaires augmentent pour les populations touchées par le conflit dans la partie est du pays, fait savoir l'Organisation internationale Médecins sans frontières dans la région sud du Sud-Kivu. MSF dit soutenir la zone de santé de Nyangezi dans le but d'améliorer l'accès aux soins dans ce contexte instable. 5 structures de santé, à savoir Kamanyola, Kambara, Kacheli, Kaboya et Mulira, ont reçu des intrants pour la prise en charge des patients atteints de paludisme, de maladies diarrhéiques, d'infections respiratoires et d'infections sexuellement transmissibles, à l'exception du VIH. L'hôpital général de Kamanyola, quant à lui, a été approvisionné pour traiter les cas compliqués chez les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes référées depuis les 5 structures, précise MSF. Santé encore, ici à Kinshasa, hier lundi 24 mars, a été une date mémorable pour le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP. Il a célébré son 50e anniversaire. Des manifestations se déroulent sous le thème « Santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour l'émergence de la RDC ». Hier, une journée porte ouverte a été organisée pour permettre au public de découvrir les services, les réalisations et les ambitions de cette institution sanitaire. Trio Banzé et Benjamin Mudumbi nous en parlent dans ce reportage.
Pour les organisateurs, cette journée porte ouverte offre une opportunité unique de plonger dans l'histoire de cette institution et d'en comprendre l'importance. Professeur Daniel Ukitundu, son médecin directeur.
Le CNPP est une institution qui a été créée par la volonté du président de la Deuxième République et surtout pour faire du CNPP un centre national d'expertise en santé du cerveau et en santé mentale dont le pays a énormément besoin pour son développement.
Pour aborder l'expertise médicale, les enjeux spécifiques de soins neuropsychopathologie, un médecin neurologue parle de défis dans le traitement des troubles neurologiques en RDC.
La plupart des malades sont pauvres. Le pourcentage que notre gouvernement alloue pour la santé, c'est déjà insignifiant. Pire encore, quand il s'agit de la santé mentale. Du côté personnel, il n'y a pas de problème. Il faut que l'État donne des subsides.
Le visiteur s'y dit impressionné par l'engagement et les dévouements des services rendus par les centres neuropsychopathologiques. Pathologie.
Les impressions sont bonnes, l'initiative que nous devons encourager.
À travers cet événement, le CNPP a réaffirmé son engagement en faveur de la santé mentale tout en offrant une consultation gratuite pour tous le 28 mars en cours.
Hier 24 mars a été aussi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À Kinshasa, plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine sanitaire ont commémoré cette journée à l'Institut national pilote des sciences de la santé à l'initiative du programme national de lutte contre la tuberculose PNLT. Cette maladie contagieuse cause la mort de plusieurs milliers de personnes chaque année dans le monde. En RDC, le gouvernement continue de fournir des efforts pour limiter sa propagation, l'objectif visé étant de parvenir à éliminer cette maladie d'ici à l'an 2035. Plotin Yambenga signe ce reportage.
Les organisations de la société civile et celles œuvrant dans les domaines de la santé ont répondu massivement à l'appel lancé par la PNLT pour réfléchir sur les mécanismes pouvant conduire à l'élimination de cette maladie. Pour la représentante pays de l'OMS, la tuberculose peut être vaincue. Cependant, l'insécurité persistante dans l'est du pays est un défi majeur dans la prise en charge des malades.
Le thème est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir ». Et agir. C'est un appel à l'espoir, à l'urgence et à la responsabilité.
Le secrétaire général au ministère de la Santé, Emmanuel Lukombe, revient ici sur les efforts que fournit le gouvernement pour éradiquer cette maladie.
Ces engagements incluent l'augmentation du financement alloué à la lutte contre la tuberculose à hauteur d'un million de dollars par an et par province sanitaire. L'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments grâce à la production locale de médicaments antituberculés et la préqualification des intervenants selon les normes de l'OMS.
Le docteur Dani Badila invite la population à plus de prudence pour éviter cette maladie.
La bonne nouvelle, c'est que en prenant le médicament, on peut guérir pour le prisonnier, qu'il puisse comprendre que cette maladie est très grave dans ce milieu et qu'il puisse avoir aussi des attitudes responsables.
La RDC est le deuxième pays en Afrique, 8e monde et un des plus grands nombres de tuberculés d'après les ministères de la Santé.
Comme annoncé depuis hier lundi à Kinshasa, des consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale voulu par le président Félix Tshisekedi. De la primature au présidium de l'Union sacrée pour la nation, en passant par le Sénat, l'Assemblée nationale, sans oublier les autres forces politiques, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui mène ses échanges a parlé avec les uns et les autres. Au sortir de ces discussions avec Désiré Kachmire et Bérand Kolongele, chacun s'est prononcé à sa manière. Rien n'a filtré des échanges qu'il a eus avec Judith Soumino d'un côté et Augustin Kabouya de l'autre. Samalou Kondé, lui, invite les autres forces politiques et sociales à s'impliquer. Des réactions de Vital Kamerhe, Mboso Nkodia et Bahati Lukwebo, respectivement président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de la même chambre et deuxième vice-président du Sénat, dans ce reportage de Billy Ivan Lutumba.
Hormis sa qualité de président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, leader du regroupement politique Action des Alliés et UNC, recommande au président Tshisekedi de ne point tolérer que n'importe qui passe en son nom dans les médias pour écorcher cette démarche de la cohésion nationale.
Il faut définir ensemble avec le conseil spécial quels sont les piliers qui vont sous-tendre ce gouvernement d'union nationale. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons des cloches des uns des autres.
Président de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, FDCA, et deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, estime que ce gouvernement doit être un gouvernement de combat.
Nous devons récupérer les territoires occupés.
Le secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. C'est quelque chose d'inacceptable.
Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, président de la Convention pour la République et de la démocratie CRD, voit les choses à sa manière.
Il faudra, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre de Congolais compétents, capables de mettre fin à l'agression rwandaise, capables de réaliser des projets pour répondre aux attentes du peuple congolais.
En rapport avec le chronogramme de ces consultations, le bureau du conseiller spécial précise qu'il est l'unique qui programme toute rencontre et les programmations se font 24 heures avant et les présidents des regroupements sont conviés sur base d'une invitation. Il n'y a donc aucune liste préétablie.
De leur côté, plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition disent boycotter les consultations politiques initiées par le chef de l'État en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Interrogé par Radio Okapi, ses opposants estiment que cette démarche de Félix Tshisekedi ne résoudra pas la crise sécuritaire actuelle. Par contre, elle vise à consolider un pouvoir en crise de légitimité. Par conséquent, l'opposition affirme qu'elle ne va pas cautionner ce qu'elle qualifie de mascarade politique et une fuite en avant du pouvoir. Elle soutient plutôt l'initiative d'un dialogue inclusif tel que préconisé notamment par la CINCO et les CC pour offrir une issue durable au conflit. Les réactions des uns et des autres avec vous, Grâce Hamzati.
Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, à travers son porte-parole Hervé Diakessé, explique pourquoi il ne veut participer à aucune démarche parallèle en dehors de celle des évêques.
Ces autorités ecclésiastiques ont su prendre langue avec toutes les parties prenantes, l'opposition armée comme l'opposition non armée, l'opposition institutionnelle comme l'opposition extra-institutionnelle, et leur démarche a aussi obtenu le soutien des chefs d'État de la sous-région, ainsi que de certains partenaires occidentaux. Nous soutenons toute démarche démarche que ces autorités vont initier et nous estimons qu'il est plus que temps d'avoir la responsabilité de comprendre que la situation de notre pays n'exige plus des solutions cosmétiques à la chaise musicale avec des postes à donner, mais nous devons vraiment faire face à des situations politiques qui exigent avant toute chose de faire l'unité autour de nous avant de chercher un gouvernement d'union nationale.
Réaction similaire de l'ECID de Martin Fayoulou, LGD de Matata Ponyomapon, mais aussi dans Vol de Délice et Sanga, qui demande à Félix Tshisekedi de cesser les calculs politiciens et mettre l'intérêt du peuple au-dessus de ses ambitions. De son côté, le FCC, famille politique de l'ancien chef d'État Joseph Kabila, se demande pourquoi cette nouvelle initiative alors qu'il y en a déjà plusieurs en cours. Le FCC refuse donc de prendre part à une messe qui, à l'évidence, cherche plus à légitimer et défendre un pouvoir plutôt que de servir la cause d'une paix durable et l'intérêt supérieur des Congolais dans leur diversité, peut-on lire dans sa déclaration.
La société civile, elle, s'interroge. Un gouvernement d'union nationale pour qui, pourquoi? La composante jeunesse a, dans une déclaration hier lundi à Kinshasa, plaidé pour l'implication de la vraie majorité nationale dans les grandes décisions de la République. Pour son porte-parole Mukenge Totoro, l'exclusion de la jeunesse à tous les rendez-vous de gouvernance du pays est une erreur historique et fatale à corriger. Pour Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit de l'homme, ces consultations sont une pure distraction. Michel Kifindangoy.
Saluant toutes les initiatives visant à rétablir la paix en RDC, la composante jeunesse met la classe politique en garde face à toute tentative de son exclusion, qui est, selon son porte-parole, une erreur historique. Mukenge Totoro.
Nous avons vu défiler plusieurs dialogues politiques dans notre pays, présentés à chaque fois comme des solutions miracles aux crises congolaises. Mais qui réellement bénéficie de ces dialogues? Quand il s'agit de défendre la patrie, la sensibilisation des jeunes se fait directement dans la population. Lorsque vient le moment de former le gouvernement, tout se passe uniquement par les partis politiques.
Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire, juge ces consultations des pures distractions et d'arnaques.
Le nouveau gouvernement mis en place après les consultations nationales ira au front pour combattre le M23. Le président est encore arnaqué par celui qui lui a donné l'idée de convoquer des consultations nationales. Le président doit se quitter cet emprisonnement dans lequel il se trouve.
Didier Bitaki invite donc le président de la République à se ressaisir pour impliquer les intelligences capables de faire sortir le pays de la guerre.
Et puis, adoption hier lundi de la résolution de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples, CADHP, sur la situation de droits de l'homme à RDC. Selon le communiqué du ministère des droits humains publié à ce sujet, cette résolution reconnaît les défis persistants en matière de droits humains à RDC et appelle à des actions concertées pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Pour le ministère, il s'agit d'une avancée majeure et le fruit du leadership congolais dont l'engagement indéfectible en faveur de la paix, la sécurité et la justice. La résolution CADHP condamne fermement les actions perpétrées par les groupes armés, notamment les massacres des populations civiles, les violences sexuelles, l'enrôlement forcé des enfants et la destruction des infrastructures sociales.
Actualité internationale.
Un défenseur des droits humains au Mali a accusé les services de renseignement de créer un climat de terreur dans le pays par leurs enlèvements et arrestations extrajudiciaires et a réclamé qu'ils rendent des comptes pour ces abus. Ces pays d'Afrique de l'Ouest, donc le Mali, dirigé par une junte après un double coup d'État en 2020 et 2021, est régulièrement accusé de réduire au silence les voix dissidentes par des mesures coercitives, des mises en cause judiciaires, des dissolutions d'organisations ou encore des restrictions à la liberté de la presse.
L'invité.
Mukenge Totoro est l'invité de ce journal. Il est le porte-parole de la composante jeunesse. Il plaide pour l'implication de la vraie majorité nationale dans les grandes décisions de la République. Dans cet entretien avec Michel Kifindangoy, Mukenge Totoro prévient que l'exclusion de la jeunesse aux consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale est une erreur historique et fatale à corriger. Suivez.
Monsieur Mukenge Totoro, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le cabinet du chef de l'État a initié des consultations de la classe politique et des forces vives de la nation en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Comment avez-vous accueilli cette démarche?
Effectivement, comme vous le savez, nous, en tant que la nouvelle génération, nous avions eu à soulever ce point il y a de cela presque une année. Nous avions alerté la République qu'il fallait qu'il y ait réellement des initiatives pour encourager une cohésion nationale. Pendant tout ce temps, rien n'a été fait et voilà, aujourd'hui, il n'est jamais tard pour bien faire.
Cette initiative vient s'ajouter sur celle de mobilisation de la jeunesse pour adhérer dans l'armée et défendre la patrie. Pensez-vous que la combinaison des deux démarches peut enfin apporter une paix durable en RDC?
La nation doit réellement comprendre que c'est sa jeunesse qui est en train de pouvoir défendre la République sur tous les fronts. Et quand vous parlez de l'initiative de la jeunesse dans l'armée, communément appelée les Wazalendo, effectivement, c'est cette nouvelle génération qui a pris conscience de la menace existentielle de notre pays et surtout qui vient pour sauver la République sans avoir des arrière-pensées ni politiques ni partisanes. Il n'est pas indiqué qu'on puisse recourir à la jeunesse quand il s'agit tout simplement de s'enrôler dans l'armée pour aller au front. Il faudrait qu'on puisse intérioriser que c'est cette nouvelle génération acquise au patriotisme et au bien-être commun qui doit aussi être mobilisée quand il s'agit de la formation et du gouvernement, mais aussi quand il s'agit de gouverner, de servir la nation à tous les autres niveaux. La classe politique actuelle a montré ses limites et qu'il faudrait recourir à la nouvelle génération, à cette jeunesse qui ne voit pas les intérêts politiques ni les considérations partisanes. C'est une responsabilité et non un privilège ni des avantages quelconques.
Quel rôle entend jouer la jeunesse dans toutes ces démarches initiées pour rechercher la paix?
Normalement, la jeunesse, elle va continuer à jouer le rôle qu'elle a toujours joué et qu'elle vient de démontrer au travers les meilleurs parmi eux, les Wazalendo, qui ont défendu la République jusqu'au sacrifice suprême, là où ceux qui devraient le faire n'ont pas fait. Et donc, nous pensons que logiquement, on devrait continuer à appliquer cette pratique qui marche en RDC de responsabiliser davantage la jeunesse. Pour ce qui est de constituer le gouvernement dont vous faites allusion, puisque nous sommes dans une situation de crise, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets dans les mêmes circonstances, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, que nous puissions encore former un gouvernement sur base de consultations politiques. Non. Il faudrait que le président de la République puisse prendre une décision qui sera difficile, mais qui sera salvatrice pour la République, celle d'associer la nouvelle génération et donner la place à la jeunesse, cette jeunesse engagée pour qu'elle puisse jouer son rôle de sauver la République, mais aussi de pouvoir préparer une RDC, une République démocratique du Congo, qui soit digne d'être vécue.
Que recommandez-vous donc à la jeunesse congolaise, mais aussi au président de la République, pour qu'enfin la paix tant recherchée puisse être une réalité en République démocratique du Congo?
La recommandation que nous continuons à donner à la jeunesse, à la nouvelle génération, c'est qu'elle puisse prendre conscience de son rôle de relève, aussi qu'elle puisse avoir une concertation dans son sein. La recommandation au chef de l'État, c'est celle de pouvoir continuer à faire ce que le chef a fait au niveau de l'armée. Faire confiance à la jeunesse, à la nouvelle génération. Comme le chef de l'État a donné la possibilité aux jeunes, au travers les Wazalendo, de pouvoir donner le meilleur qu'ils ont et de défendre la République au même titre que le soldat, que le chef de l'État puisse faire la même chose au niveau de la gouvernance. Donner la chance à la nouvelle génération, qu'elle puisse démontrer de quoi elle est capable. Et que ça soit cette nouvelle génération, pas celle qui est partisane.
Monsieur Mukenge Totoro, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Au nom de la jeunesse congolaise, au nom de la nouvelle génération, au nom de la composante jeune de la RDC.